grand témoin. Le grand témoin, Louis Dauphresne.
Si la crise sanitaire occupe tout l'espace médiatique, ou presque, elle ne résume pas le quinquennat d'Emmanuel Macron qui, à mesure que l'élection présidentielle s'approche, devra en justifier le bilan. Rémi Prud'homme n'est pas seulement économiste, ancien directeur adjoint de la direction de l'environnement à l'OCDE, ex-consultant à la Banque mondiale. Il est aussi, dirions-nous, compteur depuis l'arrivée du nouveau président. Il tient une sorte de carnet de bord dans lequel il a recensé en tout cas pendant 3 ans les décisions qui lui ont semblé être, alors là je le cite, les plus surprenantes, infondées ou carrément absurdes. Le chemin du quinquennat est ainsi parsemé de cailloux qui tordent les pieds et risquent de compliquer la grande marche présidentielle. Alors une petite mise en garde ce matin, il ne s'agit pas de faire de l'antimacronisme primaire, loin de là. D'ailleurs, la figure d'Emmanuel Macron n'occupe pas la majeure partie de cet ouvrage qui s'appelle « 100 cailloux dans la chaussure de M. Macron », même si donc le titre révèle la présence présidentielle. Non, il s'agit de comprendre comment les décisions sont prises sur un certain nombre de sujets qui touchent le quotidien des Français et qui, évidemment, nous concernent tous au premier chef. C'est une manière de comprendre peut-être l'exception française. Bonjour Rémi Prud'homme.
Bonjour.
Alors on va peut-être allumer votre micro pour que vous soyez présent avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je voulais commencer avec cette phrase parce que vous avez dit que, je cite, hein, « Si Emma est la France et si Charles est Hollande, alors Rodolphe, le premier amant d'Emma, est Macron ». On comprend bien qu'il s'agit de Madame Bovary. Et vous avez rebondi en quelque sorte sur ce qu'écrivait Mathieu Laine à propos de François Hollande, pour nous dire que Flaubert a une part importante dans la politique française. Alors on va peut-être commencer par ça, si vous le voulez bien, pour qu'on puisse un peu comprendre l'état d'esprit dans lequel vous avez opéré, Rémi Prud'homme.
Oui, ben Flaubert a non seulement écrit Madame Bovary, mais il a aussi écrit le dictionnaire des idées reçues, dont l'actualité est impressionnante. Alors, dans ce dictionnaire des idées reçues, il exprime ce qui était le consensus, comme on dirait aujourd'hui, un mot que Flaubert ne connaissait pas, qu'il aurait fait rigoler sans doute, ce qu'était le consensus sous le Second Empire, lorsqu'il écrivait, et qui pour lui était la bêtise bourgeoise. Je pense souvent à Flaubert en regardant l'actualité. Alors, pour en revenir à la comparaison entre Madame Bovary d'une part et la vie économique et politique et sociale d'aujourd'hui, j'avais été frappé par un article d'un talentueux, je ne sais pas comment l'appeler, essayiste.
Mathieu Laine,
oui, qui était très proche de Macron, je crois qu'il a été la plume de Macron un temps, qui, parlant de Hollande, le comparait à Charles Bovary, le mari médecin un peu médiocre et sans grande couleur, dont sa femme, Emma Bovary, n'est pas terriblement satisfaite. Et c'est vrai que c'était bien vu, il y avait beaucoup de justesse dans cette comparaison entre le président Hollande et le mari de
Emma Charles Bovary.
Et Charles, pour les intimes. En réfléchissant un peu là-dessus, j'ai poussé la métaphore et je me suis dit, mais qui serait Macron ? Et c'est très très bien dit dans Madame Bovary. Le premier amant de Madame Bovary, de Emma, c'est un dénommé Rodolphe, qui est un petit nobliot, bien de sa personne, un peu prétentieux, un peu fat, qui a envie de séduire Emma Bovary, proie facile, en particulier à cause de son mari. Il l'apprend et puis il s'en lasse assez rapidement. D'ailleurs, c'était la conquête plus que la possession qu'il l'intéressait. Et il la laisse tomber. Et ensuite, et c'est pour elle le début de la le début d'un glissement qui va très mal finir, puisque elle va finir ruinée, elle se suicide et ses enfants, il n'y a qu'un enfant, mais et sa fille va finir dans la misère, quoi. Et je me suis dit, ce Rodolphe, comme il s'appelle, a toutes les caractéristiques de Macron.
Pourquoi ?
Eh ben, il est jeune, bien fait, bien habillé. Il parle très bien. Il ne dit pas grand chose. On ne sait pas ce qu'il pense, ni s'il pense grand chose. Il a envie de conquérir la France. Toute chose qui s'applique assez bien.
Donc la France, c'était Ma Bavarie. L'évidence.
Donc la France, déjà dans le papier de Mathieu Laine, la France c'était Ma Bavarie, bien sûr, quoi. Et Rodolphe a beaucoup des caractéristiques de Monsieur Macron.
Donc ça veut dire qu'il y a une forme de dilettantisme en fait, un peu. C'est ça que vous semblez dire.
Ah, c'est plus que du dilettantisme. Enfin, c'est une attitude générale. C'est l'apparence, c'est le goût de l'apparence et des formes. C'est l'absence de sentiments profonds. Il n'a pas la France chevillée au corps comme d'autres présidents ont pu l'avoir. Et j'ai pensé que beaucoup de ces traits de ce Rodolphe caractérisent assez bien la présidence d'Emmanuel Macron.
Rémi Prud'homme, est-ce que ce n'est pas un mauvais procès qu'on lui fait ou une forme d'amalgame dans la mesure où il n'est pas non plus l'artisan de toutes les décisions qui sont prises? On sait bien qu'il y a une haute administration qui dirige, qu'il y a des dossiers qui sont bien antérieurs à l'arrivée d'Emmanuel Macron. Vous vous intéressez en particulier à tout ce qui touche aux questions d'environnement que vous connaissez très bien. Alors il y a bien sûr l'éolien, mais il n'y a pas que l'éolien. Il y a quantité d'aspects, il y a les transports également, le rail, la SNCF que vous analysez, il y a le prix de l'électricité, il y a un certain nombre de choses qui touchent à notre mode de vie. Et est-ce qu'il y a un domaine dans lequel la description que vous faites du président s'est particulièrement fait sentir?
Alors vous avez raison de dire que Macron n'est pas responsable de tout ce qui ne marche pas, ni d'ailleurs de tout ce qui marche, donc, en France, bien entendu. D'un autre côté, il revendique d'avoir la main sur tout, de nommer tout le monde, de diriger tout le monde, de prendre toutes les décisions, ce qui n'est pas normal, il est là pour ça, mais il le fait peut-être plus que d'autres, et en tout cas, il le revendique plus que d'autres. Et donc, il est, pour cette raison, difficile de commenter l'actualité, de commenter ce qui se passe, de commenter les décisions qui sont prises, ou les résultats qui sont obtenus, ou l'absence de résultats qui est obtenue, sans penser qu'il en est un peu ou beaucoup responsable. Donc je ne veux pas forcer la dose, je ne suis pas un anti-macronien féroce, véritablement. Mais je vois bien qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas bien en France et que derrière tous les discours, qui, notamment du président, qui affirme le contraire, parce qu'il ne cesse de dire que tout ce qu'il a fait était parfait, on l'a très rarement vu reconnaître des erreurs, il assume donc, et il n'est pas anormal de l'associer aux erreurs, aux mensonges, aux dérapages.
Quels sont-ils ces dérapages, ou quelles sont-elles ces erreurs que vous jugez tout à fait absurdes même, hein?
Je n'ai pas dans ce livre cherché à faire un traité sur le Macron ou le macronisme. J'ai pris les choses comme elles se présentaient.
Chaque jour.
Et j'ai noté des incongruités ou des mensonges qui étaient patents, qui étaient évidents. Et je les ai...
Lesquels, par exemple?
Je prends un exemple très simple qui me vient à l'esprit, là, en ce moment. Après l'affaire des Gilets jaunes, Macron s'est flatté d'avoir donné beaucoup d'argent aux Gilets jaunes. Et parmi cet effet de sa générosité, il y avait le fait d'avoir diminué l'impôt sur le revenu des personnes physiques, qui a été effectivement diminué. Alors, je ne discute pas la question de savoir si c'était bien ou si c'était mal. Je pense que c'était plutôt bien, d'ailleurs, mais la question n'est pas là. Ce qui m'a irrité, c'est de dire j'ai abaissé l'impôt sur le revenu de 5 ou 6 millions, voilà ce que j'ai donné aux Gilets jaunes. Or, tout le monde sait que l'impôt sur le revenu n'est payé que par même pas la moitié 48%. Des ménages. Oui, c'est ça. Et si l'on regarde qui étaient les Gilets jaunes, il doit y avoir très très peu de Gilets jaunes qui paient l'impôt sur le revenu. Donc diminuer l'impôt sur le revenu n'est en aucune façon un cadeau fait aux Gilets jaunes. Cependant, cette affirmation a été non seulement reprise par toute la Macronie, mais elle a été reprise par pratiquement toute la presse. Et je trouve ce genre de choses irritant. Encore une fois, ce n'est même pas la politique que je trouve critiquable, c'est la façon dont elle est présentée et c'est ce qui est véritablement un mensonge.
La chronique numéro 25, mentir vrai. Et là, vous parlez du 80 km/h, précisément, qui a allumé la révolte des Gilets jaunes.
Oui.
Rémi Prud'homme.
Alors, il se trouve que c'est une question que j'ai un peu travaillée, sur laquelle j'ai un peu regardé. C'est un domaine dans lequel les mensonges sont officiels, d'ailleurs.
La mortalité routière.
Sur la mortalité routière, oui, oui. La mortalité routière est évidemment un peu affectée par la vitesse, la vitesse moyenne d'ailleurs, et pas seulement la vitesse maximale. On peut faire des calculs, il y en a qui ont été faits, y compris par des organisations publiques comme le Commissariat Général du Développement ou du Développement Durable, qui n'est pas une officine dépendante de l'industrie automobile, c'est le moins que l'on puisse dire. Et si je prends l'exemple de l'impact que ça peut avoir sur la réduction de CO2, puisque la réduction de CO2 est devenue maintenant l'alpha et l'oméga de toutes les politiques. Vous avez des textes officiels qui disent moins 30%. C'est complètement absurde. Quand on regarde, quand on fait les calculs, ce sont des choses que l'on connaît, parce que le CO2 des voitures, il a une fonction directe de la consommation de carburant, que l'on connaît par ailleurs. L'impact, il est de 2 ou 3%. Il n'est pas de 25 ou 30%. Et donc, moi, je suis tout à fait choqué de voir que sur une chose qui est mesurable, il y a tant de choses qui ne sont pas mesurables. Mais là, c'est une qui est mesurable. On puisse dire des choses qui sont fausses dans un rapport de 1 à 10. Je trouve ça tout à fait irritant, choquant, malsain d'ailleurs, parce que ça revient à dire que seul compte l'impression. Alors on vous montre des gens qui sont sanglants dans un accident automobile.
Il n'y a pas de lien entre la vitesse et la mortalité routière.
Il y a un petit lien. Mais il y a par exemple des pertes de temps qui sont considérables. Il n'y a pas besoin d'être un grand spécialiste pour comprendre que si on va moins vite, on met plus de temps. Et vous avez des textes officiels qui disent le contraire. Là, c'est du certificat d'études primaires de calculer la différence. On le multiplie par une valeur du temps et on a des chiffres qui sont extraordinairement importants, qui sont en milliards d'euros.
Rémi Prud'homme, vous qui avez été consultant à la Banque mondiale, cadre de l'OCDE, est-ce que les institutions internationales vont corroborer ce que vous dites contre ce que disent les autorités françaises sur un certain nombre de sujets, en particulier ceux de l'environnement?
Alors,
on a l'impression que tout le monde tire dans le même sens quand même, vous voyez.
C'est une bonne observation sur beaucoup de sujets, en particulier en matière d'environnement. Les institutions internationales, il y en a beaucoup, elles ne disent pas toujours toutes la même chose au même moment, mais il n'est pas faux que pour l'environnement en particulier, il y a une doxa dominante sur ce thème du CO2 qui domine la pensée. et dont je pense qu'elle est particulièrement scandaleuse, en particulier pour ce qui est des pays en développement. Il se trouve que j'ai été amené, par intérêt d'ailleurs, à travailler beaucoup dans et sur les pays en développement. C'était l'un des grands problèmes du siècle. J'ai connu le temps où la différence de revenus entre les pays en développement et les pays développés était immense et où des misères effroyables caractérisaient beaucoup de ces pays. Et puis, pendant longtemps, ils ne se développaient pas. Et le gouffre entre les deux restait constant ou même s'aggravait. Et puis finalement, à partir des années 1980, les efforts qui avaient été faits, en particulier par les organisations internationales, un peu aussi par les pays qui aidaient, beaucoup moins, ont porté des fruits et on a vu la misère reculer d'une façon incroyable dans le globe. La situation de millions de gens, de centaines de millions de gens, s'est beaucoup améliorée. On a vu la faim qui disparaissait. Il n'y a pratiquement plus de famine, sauf quand il y a des guerres, ce qui n'était pas le cas avant 1980. On a vu l'accès à l'eau potable s'améliorer, on a vu la production agricole augmenter et augmenter plus vite que la population, c'est-à-dire que les gens sont mieux nourris. On a vu l'espérance de vie bondir, on a vu la mortalité infantile s'effondrer. Alors, il y a encore beaucoup d'endroits où toutes ces choses sont pas ce qu'on voudrait qu'elles soient, bien entendu. Mais on a vu un progrès incroyable. Et il y a au moins beaucoup de facteurs, évidemment, qui tiennent à l'effort qui a été fait par ces pays, et pas seulement par l'aide internationale, qui ne pèse pas si lourd que ça. Il y a au moins deux facteurs qui ont joué un rôle. Le premier, c'est l'électrification. Le second, c'est le commerce international. Alors, le commerce international, maintenant, c'est devenu un péché. Il ne faut plus acheter de choses à ces pays. Il faut leur mettre des taxes carbone si on achète le peu qu'ils peuvent nous vendre, d'une part. D'autre part, l'électrification se fait dans ces pays avec du charbon, parce que c'est ce qu'il y a de moins cher. Et quand je vois la France et tous les pays développés qui ordonnent à leurs institutions d'aide de rejeter absolument tout investissement dans l'électricité au charbon.
Vous êtes contre ?
Ben je suis contre, parce que en pratique, ça veut dire pas d'électricité. Pour des
millions
de gens.
Mais même en France, on pourrait rouvrir, on devrait rouvrir, ou
non,
en Allemagne,
non, là, je parle
les
pas
usines
de,
à charbon.
Non, là, je ne parle pas d'en France. Je parle des pays en développement, parce que vous m'avez parlé des institutions internationales. Et j'ai été désolé de voir les institutions internationales, y compris la Banque mondiale, suivre l'exemple, ce n'est pas l'exemple, c'est suivre les ordres des pays développés qui les dominent dans beaucoup de cas, et interdire aussi, enfin refuser leur financement de centrales au charbon. Parce que le problème n'est pas centrale au charbon ou éolienne pour l'Afrique. Il est centrale à charbon ou pas d'électricité. D'ailleurs, un certain nombre d'Africains l'ont dit de la façon la plus claire, d'ailleurs. Heureusement, d'ailleurs, ce refus scandaleux n'a pas beaucoup d'impact, parce que la Chine, qui n'a pas ses scrupules, remplace. Elle construit des centrales à charbon, au charbon en Afrique ou au Bangladesh, qui sont d'ailleurs beaucoup plus polluantes que celles que nous, on pourrait produire, parce qu'on a des technologies plus avancées. Mais sur le plan moral, je dirais, on a là l'idéologie du CO2 qui freine les progrès en dépit du fait qu'ils ont été grands sont très loin d'être achevés dans l'ensemble des pays pauvres.
Alors Emmanuel Macron est plutôt victime de cette idéologie qu'il en est l'artisan.
Il en est à la fois, oui, la victime, parce qu'il ne met pas en question ce qui se dit. Il est suiviste sur beaucoup de choses.
Sur la crise sanitaire, c'est le cas également ?
Sur la crise sanitaire, il a abdiqué entre les mains d'une bande de professeurs d'épidémiologie. Là, il semble que depuis quelques semaines, il a compris qu'il y avait d'autres façons de faire. Mais je connais moins bien la crise sanitaire.
Pourtant, vous y consacrez quand même pas mal de chroniques.
Parce que c'est devenu au cours de l'année passée un thème très, très important. Mais...
Sur quel sujet l'avez-vous trouvé, Rémi Prud'homme, à la hauteur de la fonction ?
Écoutez, je n'ai pas réfléchi à ça, sur quel sujet...
On n'a pas le sentiment qu'un autre président ferait nécessairement mieux, vous voyez ? C'est en cela que j'avais dit au début de cette émission, d'ailleurs, on ne fait pas d'antimacronisme primaire, on essaie de comprendre pourquoi il y a un certain nombre de décisions qui peuvent avoir un caractère tout à fait obtus contre ce que disent des personnes qui connaissent bien les sujets, et c'est votre cas. Il n'y a pas que l'éolien qui est un sujet archétypique, il y a aussi le rail, je disais un mot tout à l'heure, par exemple, la ligne Lyon-Turin, ou les questions de la rentabilité de la SNCF, ou d'autres sujets que vous abordez. On a le sentiment que finalement, quel que soit le président, même s'il a beaucoup de pouvoir, il ne ferait pas forcément des choses très différemment.
C'est sans doute vrai, parce que et c'est pas forcément mauvais en soi, et il serait dangereux que la parole, les idées ou les fantasmes d'un homme puissent prévaloir sur des opinions publiques ou sur l'administration dont on dit beaucoup de mal et qui ne le mérite pas toujours autant qu'on le dit. Qu'est-ce qu'il y aurait sur quoi les thèmes sur lesquels Macron aurait...
Je pose la question autrement.
Il a essayé de freiner la dépense publique. Alors, il n'y est pas très bien parvenu. On ne le saura pas trop parce que l'ouragan Covid a
c'est même contesté. Il y en a qui pensent qu'il y a eu des embauches de fonctionnaires aussi, etc. C'est un sujet contesté aussi.
Oui, mais il faudrait porter un jugement.
Quelle est la mesure, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il nous reste une quarantaine de secondes. Quelle est la mesure qui vous semble emblématique de ce quinquennat pour vous ?
C'est pas dans la mesure que le discours. Sur beaucoup de choses, c'est le... ce qui a été fait a été convenable, mais ça a été fait avec des mensonges. Et apprendre à la France à mentir, à accepter le mensonge, à ne pas le corriger,
c'est ça qui vous semble dommageable.
C'est nous mettre sur une piste particulièrement dangereuse.
Allez, une piste ou un chemin, avec 100 cailloux dans la chaussure de Monsieur Macron. Rémi Prud'homme qui signe cet opus, économiste. Merci d'avoir été avec nous, Rémi Prud'homme.